Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child alone, long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel shoulder when I need to cry. I feel restless and I don't know why. I cry for help but still feel alone, like a motherless child a long way from home. Lord, I'm lost, I can't find a way, dealing with the struggles in my day to day. My soul is weak and I want to be strong. I try to run away but I've been running too long. Like a motherless child, like a motherless child, like a motherless child, oh, like a motherless child, oh, like a motherless child, oh. Like a motherless child, like a motherless child.
Vous écoutez RTCI.
Du 26 au 27 avril se tiendra à Tunis la première conférence panafricaine de fertilité et stérilité, placée sous l'égide de l'International Federation of Fertility Societies et de la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. On en parle tout de suite avec le professeur Khaled Neji, qui est président de la STGO. Bonjour professeur Neji.
Bonjour Dunia.
Bonjour, et puis nous avons avec nous le professeur Mohamed Khalouf, qui est président du congrès. Allô ? Allô, allô ?
Oui, je suis là.
Voilà, on vous entend. Vous l'entendez, professeur Khaled-Neji ?
Oui, je l'entends très bien, mon ami Mohamed.
Voilà. C'est bon ? Vous nous entendez, docteur Khalouf ?
Oui. Super, super. Merci beaucoup. Hein. Merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie. Voilà. Et puis le professeur Neji vous entend. Vous pouvez même parler ensemble tous les deux. Il a son casque. Donc, il vous reçoit 5 sur 5. Alors,
super.
Voilà. Merci à tous les deux d'être là pour parler de cette conférence panafricaine, la première du genre, ô combien importante. et qui va se passer chez nous, en Tunisie. Ça, c'est génial. Et c'est peut-être une manière comme une autre, professeur Khaled Neji, de mettre en avant le fait que la Tunisie, elle est plutôt bien placée dans tout ce qui est PMA, procréation médicalement assistée, dans tout ce qui est la lutte contre la stérilité.
Absolument, absolument. Donc, d'abord, je tiens à te remercier. C'est toujours un très grand plaisir d'être avec toi dans les locaux de RTCI pour parler de choses très intéressantes. Alors, ce congrès, justement, vient à point pour essayer de consolider un peu notre place de leader en matière de procréation médicalement assistée sur le continent africain. Et ce congrès, c'est le premier congrès qui va réunir, pour la première fois d'ailleurs, les pays francophones, africains, avec des pays anglophones.
Hein. Voilà.
Et ça, on doit ça au professeur Mohamed Khrouf, qui est au bout du fil, qui a fait un travail extraordinaire pour gagner ce pari. Et j'espère que c'est bien parti pour qu'on fasse... ça sera la grande fête de la
fertilité.
De la PMA, de la fertilité sur le continent africain.
Tout à fait. Alors justement, professeur Mohamed Khrouf, bilingue donc, est-ce qu'il va y avoir, les slides en anglais, la conférence sera présentée en français, ou bien est-ce qu'il y aura une traduction simultanée? Comment ça se passe? Puisque c'est vrai que le continent africain, il y a d'un côté les anglophones et de l'autre, il y a les francophones.
Absolument. Ça fait partie, l'un des challenges sur ce congrès, mais de façon plus générale sur le continent. Et puis, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir le monde francophone qui se réunissait d'un côté et puis les anglophones de l'autre. Et
tout
puis, comme l'a souligné professeur Neji, l'un des challenges, c'était vraiment de réunir tout le monde, et c'est la première fois qu'on le fait. Alors, la langue officielle, c'est l'anglais. C'est, en ce moment, actuellement, un peu la langue de la science.
Oui, tout à fait. Tous les articles, on les trouve en anglais.
Absolument, absolument. Ceci dit, bien entendu, pour faciliter l'accès à la science, justement, à nos amis qui sont strictement francophones, une traduction simultanée est prévue. Maintenant, l'anglais médical est toujours beaucoup plus simple à comprendre que l'anglais littéraire. Donc, je sais très bien qu'ils ont l'habitude d'assister aux congrès internationaux, et qu'on ne trouvera aucun mal à faire transmettre l'information la plus mise à jour sur les questions de la fertilité.
Alors, ce congrès est placé donc sous l'égide de l'African Federation of Fertility Societies, mais aussi la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Alors, ces sociétés africaines, puisque c'est la fédération des sociétés africaines de fertilité, c'est pas la même chose que les sociétés de gynécologie obstétrique. C'est une surspécialité de la gynéco?
Alors absolument, c'est dans le monde la question de la fertilité et de l'infertilité prend une telle ampleur à cause de forte prévalence et puis à cause de la complexité des techniques que dans beaucoup de pays il y a eu ce choix d'avoir des sociétés qui sont sous-spécialisées, on parle de sociétés de savantes bien entendu, qui sont sous-spécialisées dans la question de la fertilité et la Fédération africaine est là pour fédérer toutes ces sociétés. Alors en Tunisie nous avons une spécificité, parce que nous avons toujours une spécificité, c'est que nous avons notre société mère, qui est la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, qui, par choix, nous l'avons tous fait ce choix depuis des années, d'avoir une seule société mère, et qui va, elle, avoir des groupes d'études au sein de cette société.
D'accord.
Et ça, c'est pour ne pas disperser les efforts et pour avoir quelque chose d'uni à l'échelle de notre pays.
D'accord. Alors, dites-moi, professeur Khaled Neji, comment vous avez fait pour obtenir que se déroule comme ça cette grande conférence qui va réunir toutes les sociétés scientifiques de tout le continent africain en Tunisie, à Tunis?
Oui, absolument. Donc, on va rendre à César ce qui appartient à César. Le monsieur qui est au bout du fil a fait un travail extraordinaire. Il y a Dr Khrouf, il y a de ça plus qu'une année, je crois.
Ouais.
Et puis, il est venu nous dire qu'on a une belle opportunité de réunir beaucoup de sociétés africaines autour de ce sujet.
Ouais.
Et nous, on était tout de suite preneurs avec tout le board de la STGO. À l'époque, il y avait Béchel Zouaoui, président. Et on était donc parti pour ça. Donc entre-temps, il y a eu un gros travail qui a été fait, toujours en collaboration avec le board de la STGO. Et le challenge, c'était de réunir toutes ces sociétés autour de ces différents thèmes. Vous avez vu que le programme est très riche.
On va le lire ensemble d'ailleurs avec
Ça va impliquer beaucoup de spécialités comme la gynécologie, l'urologie, l'andrologie, la biologie. Donc tous ces spécialistes vont se retrouver autour des thèmes. Et c'était ça. Donc on a fait le choix de que ça soit sous l'égide de la STGO. Et comme il dit, c'est très important ce qu'il venait de dire, parce que c'est une spécificité et un point positif pour les sociétés tunisiennes de faire ces groupes de travail. Ça va donc laisser plus les gens. Ça va pas les laisser partir pour faire d'autres sociétés, comme ça s'est passé en Algérie ou en Égypte. D'ailleurs.
Voilà, donc on fédère un petit peu les énergies.
Ça fédère toutes les énergies autour de groupes de travail et leur laisser une marge de manœuvre. Donc, comme ça s'est passé avec Mohamed et le groupe de la STGO qui ont réussi à nous faire ce congrès.
Alors, dites-moi combien de pays seront représentés, dites-nous un petit peu, on veut tout savoir de ce congrès, de cette première conférence du genre panafricaine. Dites-nous tout, docteur Khrouf.
On est très content de dire qu'on va avoir plus que 18 pays, normalement 18 ou 19 pays qui sont confirmés. Je parle des pays africains. Il y aura bien entendu quelques conférenciers qui viendront de l'Europe. Et puis, ce qu'il nous fera, hormis les speakers et hormis les congrétistes tunisiens, on va avoir plus que 120 délégués qui vont venir participer, et puis 27 speakers qui vont venir des pays africains. Donc, vous voyez que nous avons une belle réunion.
Monde.
Ben oui, on est très content de recevoir tout ce beau monde.
Ça va se passer où, finalement, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde sur Tunis, Palais des Congrès ou?
Alors, dans un hôtel de la ville.
D'accord.
Je ne sais pas si on peut le citer. Mais
c'est pour la bonne cause. De toute façon, c'est pour un truc scientifique.
Olaïco. Et puis, aussi, une autre spécificité, c'est que les cours pré-congrès auront lieu dans un centre de simulation médicale.
Ça, c'est chouette.
Voilà. Et puis, donc, parce qu'il y aura 5 cours pré-congrès, dont un des cours est un atelier sur simulateur.
Vous commencez le 25, alors.
Voilà, on commence le 25 avec les ateliers. Ça, c'est pour les médecins qui veulent en apprendre plus sur certains sujets spécifiques. Dont un des ateliers, comme je disais, c'est de la simulation. Donc, on a des simulateurs pour que les gens apprennent d'abord, non pas sur les patients, mais apprennent sur des simulateurs en définition.
Tout à fait.
Et voilà.
Mais dites-moi, en fait, le continent africain est immense et j'imagine que quand même il y a une disparité au niveau du traitement de l'infertilité d'un pays à l'autre. C'est pas la même chose. Et donc, il va y avoir beaucoup de questions. Il va peut-être y avoir aussi une remise à niveau. Il va y avoir beaucoup de curiosité de ce qui se passe en Tunisie, parce que quand même, on est à la pointe, nous, en Tunisie.
Comme je connais quand même
un peu
le contexte africain, effectivement, il y a beaucoup de disparités sur ce continent qui est magnifique, que j'aime beaucoup, et particulièrement en matière de PMA et de techniques de PMA. Donc, ce qui fait que tout le monde le sait, en Tunisie, on reçoit depuis des années maintenant beaucoup de couples qui viennent du continent africain, d'Afrique subsaharienne, d'Algérie, de Libye, donc ils viennent pour des soins spécifiquement en matière de PMA. Et puis c'est pour ça que je disais au début que ce sera une bonne occasion pour consolider et fortifier notre position de leader en matière de PMA sur le continent.
Donc tous les confrères tunisiens doivent venir, ils doivent tous être présents.
Absolument,
massivement.
Je vous invite. Il faut surtout pas que le fait que la langue officielle du congrès soit l'anglais donne des réticences. Au contraire,
il
va falloir qu'un jour l'autre en se mettent à l'anglais. Et puis de toute façon, on a choisi de très bons traducteurs pour que le message passe pratiquement comme si c'était en français. Donc il faut que nos collègues ici viennent en masse pour montrer qu'on est unis sur cette cause-là.
Voilà, une présence en force. Alors dites-moi, docteur, professeur Mohamed Khrouf, on a le 25 où ça sera pré-congrès avec des ateliers, des séances de simulation.
Et puis, de simulation, oui.
La conférence internationale panafricaine, elle démarre le 26, donc 26 et 27 avril sur deux jours.
Absolument.
On va regarder un petit peu le programme, si vous le voulez bien. Alors, il y a plusieurs sessions. Allô, des séances plénières,
oui,
des plénières.
Oui. Ah oui. Alors ce qu'on a fait. Alors la spécificité de la procréation médicalement assistée, c'est que il y a plusieurs acteurs majeurs, mais disons qu'il y a toujours ce qu'on appelle les cliniciens, ceux qui voient les patients. Il y a aussi les biologistes qui sont la pierre angulaire de la procréation médicalement assistée. C'est eux qui techniquent, entre guillemets, les gamètes au niveau du laboratoire. Et donc, nous avons agencé le programme pour qu'il y ait des séances plénières à chaque fois que nous avons un sujet qui nous intéresse les deux, les cliniciens et les biologistes.
Oui.
Et quand nous partons sur des sujets qui intéressent ou l'un ou l'autre, nous nous séparons en sessions parallèles pour que l'on puisse discuter nos sujets.
Très bien.
C'est ainsi que nous avons 4 séances plénières et 8 sessions parallèles sur ces deux jours-là.
D'accord.
Et en plus des symposiums qui sont réservés aux laboratoires pharmaceutiques qui nous soutiennent.
Mais toujours avec des thèmes voilà, ô combien intéressant. Alors, par exemple, je prends la première séance plénière qui a pour thème, je traduis les investigations chez les couples infertiles. Alors, moi, une question que je pose aussi bien à vous, professeur Khaled Neji, qu'à vous, professeur Khrouf. Quand, dans un couple, il y a un bébé qui tarde à venir, on va se lancer dans des investigations et souvent, c'est pour la femme. Voilà. Dans un premier temps, pas d'investigation chez les messieurs. Et je pense que c'est généralisé sur tout le continent africain. Hein. Voilà. Les investigations, dans un premier temps, c'est uniquement pour la femme. Et souvent, les messieurs ne veulent pas se plier aux investigations. Comment vous faites, vous, les médecins, pour que les mentalités changent, pour leur expliquer que l'infertilité peut tout aussi bien venir du côté des messieurs que du côté des dames? Il y a même des pourcentages qui fait que ça vient même plus souvent parfois du côté des messieurs. Alors dites-nous, racontez-nous tout ça, professeur Mohamed Khrouf.
Alors, vous aviez déjà donné la réponse dans la question, c'est que face à ça, la nature nous a mis un peu égaux, puisque à peu près 30% des causes sont féminines, 30% des causes sont masculines, 30% des causes sont mixtes.
Sont inconnues.
Et 10% sont inconnus.
Voilà.
Donc, mais il y a 30% qui sont mixtes. Donc, si on n'investigue pas l'homme en parallèle avec la femme, il y a 60% de risque qu'on passe à côté d'une des causes d'infertilité. Et moi, je voudrais aussi quand même souligner que de plus en plus, il y a une prise de conscience par rapport à ça, et disant que la moitié, au minimum, consulte en couple.
Chez nous en Tunisie, mais c'est pas le cas sur le reste du continent africain souvent, parce qu'il y a un problème de mentalité, parce que on le voit un peu chez nous, mais on le voit beaucoup plus ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des divorces, il y a des répudiations dans certains pays parce que la dame ne va avoir que des filles, par exemple. Il faudrait bien leur expliquer que le sexe est déterminé par le monsieur et non par la dame. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des mentalités dans notre continent africain.
Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, la Fédération africaine des sociétés de fertilité a réalisé ce qu'on appelle la campagne de sensibilisation auprès de la population générale. Depuis un an, via les réseaux sociaux, mais en ciblant surtout les pays subsahariens, il a été diffusé des courts messages ou des clips vidéo ou sur Instagram ou sur Facebook pour expliquer les choses de manière facile à comprendre. Et pour expliquer tout ce dont on parlait là, mais dans un langage qui est compréhensible pour la population générale. Ça fait partie des missions d'expliquer à la population générale ce qui se passe.
Et vous, professeur Khaled Neji, je sais que vous êtes président de la STGO, mais vous êtes aussi chef de service au centre de maternité de Tunis. Et au centre de maternité, vous voyez arriver des patientes de toute la République qui viennent et tout. Et là encore, il y a aussi des idées reçues, il y a des questions taboues comme cela que vous devez combattre au quotidien.
Je suis d'accord avec Mohamed, beaucoup moins qu'avant.
Oui.
Les mentalités sont en train de changer, probablement grâce aux réseaux sociaux, entre autres, en Tunisie et puis ailleurs aussi. On voit de plus en plus des couples d'Afrique subsaharienne qui viennent sans aucun tabou consulter tous les deux et prêts à faire toutes les investigations nécessaires, surtout quand il s'agit de l'homme. Les mentalités sont en train de changer dans le bon sens.
D'accord.
Par rapport aux idées reçues.
Et à l'intérieur du pays, ils ont appris que c'est le monsieur qui va déterminer le sexe du bébé.
Vraiment.
Bien.
Ces dernières
on
années.
On devrait faire un vrai faux là-dessus, vous et moi.
Oui, quand tu veux. Mais oui, on sent qu'il y a un changement dans le bon sens sur ce sujet.
Alors, on retourne à nos séances plénières, si vous le voulez bien, professeur Mohamed Khelouf. Donc, première séance plénière, investigation chez les couples infertiles, avec aussi l'accès au traitement de la fertilité, de la PMA en Afrique. Et on le disait tout à l'heure, c'est un peu inégal, hein. C'est pas réparti pareil d'un pays à l'autre.
Absolument, absolument. Cette inégalité, elle va toucher le continent africain, aussi bien pour l'accès aux médicaments que pour les techniques offertes, que pour la qualité des soins. Et ça, nous en sommes conscients, Dr Neji l'a souligné. Et le but de cette conférence, justement, c'est de mettre ceux qui font très bien avec ceux qui pourraient s'améliorer tous ensemble pour montrer déjà qu'entre nous et au sein du même continent, il est possible d'avoir des soins de qualité ou de trouver un accès équitable aux médicaments. Comme ça, des pays similaires peuvent s'échanger les expériences et peuvent s'inspirer sur tel ou tel sujet. Et c'est l'un des buts de cette conférence, c'est-à-dire que dire, voilà, entre nous, entre Africains, on peut trouver des solutions ou s'inspirer l'un et l'autre. Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, l'accès au traitement.
Oui.
C'est une question qui devient capitale. D'ailleurs, l'infertilité étant maintenant, d'après l'OMS et depuis 2023, une maladie considérée comme maladie et comme une maladie à l'échelle mondiale, va toucher un couple sur six, il n'est plus possible de considérer les traitements de l'infertilité comme étant un luxe ou une option qui ne peut être remboursée. Si vous voyez les assurances, nous, on a la CNAM, on a la chance d'avoir la CNAM qui prend en charge les médicaments de la PMA.
Qui prend beaucoup, deux fois, je crois, deux essais.
Jusqu'à trois fois pour
trois
les
fois.
Femmes qui n'ont pas eu d'enfants jusque-là.
D'accord.
C'est une chance. Mm-hmm. Et c'est aussi inspirant de dire que, voilà, dans un pays
nous,
africain...
Nous, en Tunisie, oui.
Oh, il y a ça. Mais dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Et
oui.
Pour les assurances...
Et ça coûte
souvent,
très cher.
Mmh. Elles excluent les traitements de la fertilité de la prise en charge des assurances privées, les considérant comme étant un luxe. Et c'est injuste, parce que maintenant que l'infertilité est déclarée comme maladie, maintenant que c'est un fléau qui impacte la fertilité des populations dans le monde, il faut qu'il y ait un plaidoyer pour que ça change. Et cette première plénière, elle est d'une importance capitale parce que elle s'adresse aussi aux décideurs pour qu'on mette en place la prévention, certes, mais aussi qu'on donne aussi la chance aux gens
d'accéder au traitement.
Accès au traitement. Voilà.
Tout à fait. Alors avec des conférenciers qui viennent d'Irlande, d'Égypte, du Nigeria, de Tunisie, à chaque fois vous avez varié au niveau des experts qui prendront la parole. Pour la seconde séance plénière, ce sera les fausses couches à répétition, avec les échecs de l'implantation. Et il y a un côté psychologique aussi que vous mettez en place là pour cette seconde plénière, avec parce que ça atteint le moral aussi bien du médecin qui y croit et qui veut que ça réussisse, que la patiente qui passe par là avec ses échecs d'implantation et ses fausses couches à répétition. Alors, il nous reste 4 minutes. Bien entendu, préservation de la fertilité, ça sera le thème de la troisième séance plénière. Et là encore, des conférenciers d'Égypte, de Tunisie. Tiens, vous-même d'ailleurs, vous allez intervenir pour la préservation de la fertilité, que ce soit dans le cas d'un cancer ou non, d'ailleurs.
Oui, alors la préservation de la fertilité, il est vrai que j'ai une affection particulière pour ce sujet parce que du temps où j'exerçais encore à l'hôpital public au centre Aziz Arasmena, on avait mis en place avec mes camarades, mes collègues le programme de préservation de la fertilité en Tunisie pour des raisons médicales. On se bat encore en Tunisie et on espère que ça va aboutir bientôt pour que ça puisse être offert aussi aux femmes qui souhaitent aussi congeler leurs ovocytes sans qu'il y ait de raison médicale.
Oui.
Et nous sommes, je pense, sur la bonne voie. Mais en tout cas, aussi dans le cadre de ce déclin de la fertilité mondiale, mais aussi de l'augmentation réelle du nombre de cas de cancer dans le monde.
Oui.
Tout ça fait que la préservation de la fertilité, encore une fois, qui était perçue il y a 10 ans comme étant juste quelque chose d'optionnel, devient maintenant partie intégrante du parcours de soins d'un patient qui souffre ou d'une patiente qui souffre du cancer. Et c'est important qu'au niveau du continent, on puisse faire le point sur les standards de comment faire cela.
Voilà, tout à fait. Écoutez, nous sommes pris par le temps, malheureusement, pour Sir Mohamed Khalouf. Donc, on le rappelle, cette conférence, donc, les 25 en pré-congrès, 26 et 27 avril avec les séances plénières. Le mot de la fin va vous revenir, professeur Khaled Neji.
Merci.
Un mot à l'intention de vos confrères,
peut-être.
Oui,
donc, je les invite à venir vraiment nombreux pour assister à ce congrès qui va vraiment mettre, ça sera une mise au point sur tous les sujets, des updates sur tous les sujets de la PMA. Donc, soyons nombreux, soyons ensemble et puis on va pas le regretter. Voilà.
Voilà. Et bravo à la Tunisie, fer de lance un peu de la PMA sur tout le continent
bravo,
africain.
Parce que par rapport à la préservation de fertilité, par exemple, Mohamed en parlait, on était les pionniers hein, sur, à l'échelle africaine. Et c'est pas un hasard que ce congrès ait lieu en Tunisie.
En Tunisie.
Voilà.
Donc, merci, professeur Khaled Neji, président de la STGO, la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Merci à vous, professeur Mohamed Khalouf, président de ce congrès. Je rappelle que du 26 au 27, mais avec déjà un pré-congrès le 25 et des séances de simulation, eh bien, se tiendra cette première conférence panafricaine de fertilité et stérilité sous l'égide de l'International Federation of Fertility Societies et de la STGO. Merci à tous les deux. À très bientôt et plein succès.
Au revoir. Merci.
Merci. Président, bye bye.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire.